La poésie mallarméenne du néant, telle qu'elle s'annonce pour la première fois dans la lettre à Casalis du 28 avril 1866, n'est pas une poésie de la mort de Dieu. Sartre, dans son étude sur l'engagement de Mallarmé, soutient de l'auteur du coup de dé que, je cite, « plus et mieux que Nietzsche, il a vécu la mort de Dieu ». Je proposerai plutôt ceci. Si Nietzsche affronte en philosophe la mort de Dieu, Mallarmé nous permet d'appréhender la possibilité que cette mort n'ait pas eu lieu, pas plus que Dieu. Plus exactement, il nous permet d'envisager que la mort de Dieu est peut-être une fiction au même titre que Dieu. C'est donc une poésie dont la singularité, je crois, se laisse mieux approcher quand on saisit qu'elle se déprend de l'un et l'autre de ses choix existentiels autant que littéraires. Pour commenter d'un mot cette thèse, je voudrais simplement expliquer quelle est ma situation en tant que philosophe lisant Mallarmé. Mon souci n'est pas de dégager une philosophie sous-jacente à Mallarmé que je pourrais reconnaître dans les philosophies existantes. Mon intérêt pour Mallarmé vient plutôt du fait que je découvre chez lui ce qu'aucun philosophe, à ma connaissance, n'a pensé. Et en particulier sur ce thème qui me paraît tout à fait convenir à cette matinée ou à cette journée sur Mallarmé et la philosophie, ce thème qui est en partage des philosophes et des poètes et qui se nomme la mort de Dieu. La mort de Dieu, je vais y revenir, c'est un thème qui parcourt tant la poésie que la philosophie du XIXe siècle. Et généralement, les philosophes l'abordent à partir de Nietzsche. À tel point que chaque année, j'ai des étudiants qui croient que c'est Nietzsche qui a inventé la phrase « Dieu est mort ». Mais je crois que aborder ce thème à partir de Nietzsche, c'est ne pas saisir, en vérité, qu'il se constitue évidemment bien avant Nietzsche, et qu'il devrait plutôt être éclairci à partir de ce que les poètes en particulier en ont dit. Et ce que je vais essayer de faire devant vous, c'est de vous montrer qu'il y a chez Mallarmé les moyens poétiques de s'extraire d'une pensée de la mort de Dieu qui domine encore Nietzsche et Heidegger lisant Hölderlin. Donc Mallarmé, c'est un poète qui m'aide à m'extraire d'une pensée en particulier philosophique, celle de Nietzsche, de la mort de Dieu. Si en 1866, Mallarmé ne fait pas, à mon sens, l'expérience de la mort de Dieu, comme on le lit régulièrement sous la plume de certains commentateurs tout à fait avisés, c'est à mon avis notamment parce que cette poétique du Dieu mort fait déjà partie de sa poétique, fait déjà partie de son écriture, de concert avec d'autres influences et enchevêtrée avec celle-ci de façon plus ou moins antagoniste dans ou durant les années 1862-1866. Durant ces années, on le sait, Mallarmé est influencé par le spleen baudelairien, bien sûr, par l'impassibilité parnassienne, par les principes de composition inspirés d'Edgar Poe. Mon hypothèse, c'est que le néant, le vide que Mallarmé découvre en 66 en creusant le vers de l'ouverture d'Hérodiade, est perçu par lui comme une rupture possible avec son passé poétique, parce que ce néant, ce vide, le projette certes en dehors de l'idéal cruel baudelairien, de l'azur icarien, intensément solaire, mais également hors d'une poésie de la mort de Dieu dont l'imagerie privilégiée est plutôt crépusculaire et nocturne. Alors pour soutenir cette thèse et progressivement en exposer l'enjeu, je vais tenter donc de faire deux choses. D'une part, montrer ce qui laisse à penser que Mallarmé se libère en 66 de cette poétique du Dieu mort qu'il connaît déjà, et d'autre part, montrer pourquoi sa poésie de la maturité peut reprendre pourtant et en abondance les figures privilégiées de ce qu'il abandonne. En particulier, le thème crépusculaire dont Gardner Davis a souligné depuis longtemps l'importance dans le cadre de son étude sur le drame solaire. Pourquoi Mallarmé doit-il mobiliser les thèmes dont il se déprend pour mieux s'en déprendre? Alors, j'avance en premier lieu donc que Mallarmé a rencontré, avant sa contre-révolution du néant, la poétique de la mort de Dieu. L'indice dont on peut partir est le suivant. Ce qui me semble paradoxal depuis longtemps lorsqu'on dit qu'en 66, Mallarmé, en découvrant le néant, fait l'expérience de la mort de Dieu, fait une certaine expérience d'un athéisme ou d'un matérialisme radical, nous ne sommes que vaine matière, et cette expérience serait donc exprimable en termes de mort de Dieu. Ce qui me semble paradoxal dans cette thèse, c'est que, en fait, l'énoncé le plus proche de Dieu est mort dans la poésie publiée de Mallarmé se situe avant 1866 et non après, à savoir dans l'Azur, achevé en 1864 avant d'être publié en 1866 avec quelques modifications dans le Parnasse contemporain. L'Azur est envoyé, on le sait, en janvier 1864 à Casalis. Et il contient, dans le premier vers du sixième quatrain, la déclaration bien connue, « Le ciel est mort », avec une majuscule qui tombera dans l'édition définitive. Or, non seulement Mallarmé écrit cette phrase plus de 2 ans avant la lettre du néant, la phrase la plus proche qu'on connaisse de lui dans sa poésie de « Dieu est mort », mais il en dévalorise brutalement le sens dans le commentaire qu'il en donne à Casalis dans cette même lettre de 64. Il en fait, je cite, « une exclamation grotesque d'écolier délivré ». Autrement dit, tout se passe comme si la thématique de la mort du ciel, synonyme de l'azur baudelairien, lui-même azur supplétif d'un dieu déjà en voie d'effacement chez le poète, tout se passe comme si le thème de la mort du ciel, de la mort de Dieu, était déjà alors, pour lui en 64, une vieille chose, appartenant à une juvénilité dépassée, dont il doit comme s'excuser auprès de son correspondant. Alors comment comprendre ce point ? L'azur semble porter à son terme une logique d'exacerbation de la poésie icarienne, exacerbation déjà à l'œuvre dans les plaintes d'Icare de Baudelaire. Dans ce poème, Baudelaire, en effet, ne se contente plus de comparer l'échec du poète à la chute du fils de Dédale, comme d'autres l'ont fait avant lui. Il décrit une version, en quelque sorte, splinétique d'Icare, dans laquelle le poète déchoit de cette chute même, en ne parvenant plus à conserver pour cette chute son reste de grandeur, puisque le poète ne réussit pas, au contraire de son modèle, Icare, à donner dans le poème, à son tour, son nom à la mer, à l'abîme, qui lui sert de tombeau. Le poète ne parvient même plus à être maudit et trébuche dans le guignon. Déchoir ainsi de la chute initie alors un procès qu'on devine reproductible, où chaque échec peut reprendre le précédent à une puissance supérieure. L'azur met en scène une sorte d'étape ultime d'un tel mouvement, où le poète parvient cette fois à manquer jusqu'à sa tentative de devenir philistin. Rivé en effet au sol désertique et stérile de ses douleurs, il cherche à boucher le ciel pour échapper à l'ironie d'un azur qui échappe décidément à son art. Brouillard, haillons de brume, ennui létéen, suie des tristes cheminées sont convoqués, jusqu'à la mort apparente du ciel. Le ciel est mort. Mais l'azur repasse au travers de ce voile par un chant de cloche indifférent à ce qui les rendait invisibles, et continue de hanter celui qui rêvait de rejoindre le bétail heureux des humains sans génie. Le poète est donc convoqué à retourner à son supplice, mais la fidélité à son office ne semble désormais que la conséquence de son impuissance même à échouer en tout, même en médiocrité. La vocation du poète n'est alors plus que le résidu du ratage d'un ratage. Alors que fait Mallarmé au juste dans ce poème ? En fait, il semble jouer une poétique de l'impuissance contre une autre. Il semble tenter de détruire, comme par une échappée désespérée, la figure solaire de la poésie icarienne par celle de la nuit des dieux morts, des dieux exilés ou enfuis. L'impuissance icarienne est due à l'incapacité du poète d'approcher un ciel trop ardent pour lui. L'impuissance du même poète face à la nuit des dieux morts est, elle, plutôt due à l'absentement de l'idéal céleste. Dans le cas du dieu mort, ce n'est pas l'ascension vers l'azur qui fait défaut, c'est l'azur même. L'impuissance n'est plus alors due à une insuffisance du poète à rejoindre son idéal, mais à l'absentement de l'absolu pour l'époque tout entière. Ce n'est donc plus la montée qui échoue, mais le sommet qui vient à faire défaut. Il y aurait donc bien consolation, dans le cas de la mort de Dieu, pour le poète icarien, d'oublier ses propres manquements à son art en espérant la disparition même de son idéal auprès duquel il a brûlé ses ailes. La mort des dieux soulage provisoirement de la chute icarienne, perpétuellement intensifiée d'échec en échec. Mais quand l'azur se fait entendre à nouveau par sa musique céleste inentamée, cette tentative de transformer son propre échec en tombée anonyme de la nuit se dissipe Et le poète est ramené dans le dernier vers au spectre de ce qu'il croyait avoir assassiné. Je suis hanté. Alors pourquoi maintenant cette référence à une exclamation grotesque d'écolier à propos du ciel mort? Peut-être, en tout cas j'en fais l'hypothèse, parce que la mort du ciel renvoie pour Mallarmé à une poésie bien antérieure à celle du spleen baudelairien. Antérieure de plus d'un demi-siècle en vérité, et peut-être aussi parce qu'elle correspond chez notre poète à l'une de ses influences poétiques les plus précoces et depuis longtemps abandonnées, du moins à l'échelle de sa jeunesse littéraire en rapide évolution, à savoir celle de Musset. Austin, on le sait, considère que Musset, avec Lamartine et Hugo, est une influence majeure du recueil de poèmes « Entre quatre murs », rédigé entre 1859 et 1860, tandis que Mallarmé est au lycée de Sens. Or, le poème intitulé « Pan », qui conclut le recueil, contient manifestement, remarque Austin, le souvenir de deux vers de Rolla, preuve suffisante, s'il le fallait, que le jeune Mallarmé l'avait lu de près. Rolla, on le sait, contient une poétique manifeste de la mort des dieux. On y lit une plainte du débauché appartenant à une génération incapable de croire après un siècle d'incrédulité dominé par le hideux sourire de Voltaire, et non pas une plainte du poète impuissant à s'élever vers ce qu'il continue de désirer ardemment pour son malheur. Or, passer pour anéantir son idéal, comme le fait le poète de l'azur, de Baudelaire, de l'azur baudelairien, à la mort du ciel, c'est-à-dire à la mort des dieux, c'est passer de Baudelaire à Musset. C'est régresser, pour le jeune Mallarmé intransigeant, en somme, de Baudelaire à Musset. D'où, dans mon hypothèse, l'idée que, au fond, cet écolier, ce grotesque écolier délivré, au fond, c'est la tentative pathétique du poète de revenir à une poétique éculée, déjà éculée pour Mallarmé à l'époque, celle de la mort des dieux, contre une poétique bien plus nouvelle et bien plus passionnante pour le Mallarmé de l'époque, qui est celle du spleen. C'est encore une marque d'échec. Ajoutons encore ceci. Du poème, donc, L'Azur, Mallarmé écrivait toujours dans sa lettre à Casalis qu'il n'y avait pas un mot, je cite, qui ne lui écoutait plusieurs heures de recherche, et qu'il l'avait composé donc en tentant, on le sait, de suivre les principes de composition, fictifs, peu importe, d'Edgar Poe, excluant toute intervention du hasard. La lutte profonde du poème se tient donc en vérité entre un principe de composition, froidement conscient du calcul de ses effets, mobilisé par l'auteur du poème, qui pressent déjà la fécondité possible de ce régime d'écriture, et l'azur splinétique qui astreint la voix intérieure au poème à une maladie d'impuissance qui le stérilise. Mais ce principe de composition est également thématisé au sein même de l'azur. Car on voit le poète mobiliser volontairement pour masquer le ciel ironique, brouillard, ennui, l'été et nuit meurtrière, comme autant d'effets théâtraux, ouvertement artificiels. La mort du ciel, elle est produite artificiellement par la convocation faite par le poète de la suie, de la cheminée, de la suie des cheminées urbaines. Bon. Et en ce sens, en fait, il y a déjà là une certaine démystification. L'idée que la nuit tombe sur le siècle, parce que les dieux sont partis, je vais y revenir. L'idée donc que nous habitons une époque indéfinissable par la nuit. Elle est déjà en partie démystifiée par le poème parce que cette nuit n'a plus rien de naturel dans l'azur. Elle est urbaine, elle est artificielle et elle est au fond un effet poétique. Et c'est d'ailleurs aussi parce qu'elle est un effet poétique dont le poète a conscience qu'elle ne fonctionne pas pour repousser l'azur baudelairien. C'est tout cela qui me rend problématique l'idée que 2 ans plus tard, Mallarmé aurait fait l'expérience, sous la forme d'une révélation négative et écrasante, d'un néant identifié à une poétique pourtant déjà connue et peut-être trop bien connue de la mort de Dieu. C'est-à-dire que si l'on pense au fond que Mallarmé a conscience et connaît bien cette poétique de la mort de Dieu, que je vais exposer en détail dans un instant, plus en détail dans un instant, que si on pense au fond qu'il en a conscience comme d'une vieille chose qui commence depuis le début, le tout début du XIXe siècle, qui a déjà commencé près de 60 ans avant les Fleurs du Mal. Il est très difficile de penser qu'il pourrait faire l'expérience écrasante, au travers de l'expérience du néant, de cette chose pour lui trop bien connue. Ce qui veut dire que le néant redevient énigmatique pour le lecteur, en ce sens que nous pouvons nous poser la question, que peut bien être le néant s'il est en particulier une rupture et non pas une adhésion à la mort des dieux. Mais avant d'aller plus loin et d'explorer ce point, je voudrais un peu préciser en quoi peut bien consister cette poétique de la mort des dieux. Et pourquoi il me paraît important, ou en tout cas intéressant, de saisir que la poésie de Mallarmé, à partir de 1966, n'y participe pas, n'y participe plus, pas davantage qu'au spleen baudelairien. Alors, je vais essayer de m'attarder un instant sur ce point pour en dégager l'enjeu, en particulier pour les philosophes, en général, comme je l'ai dit, héritiers du Nietzsche quant à l'affrontement de cette question. Les philosophes abordent donc, je l'ai dit, la mort de Dieu généralement à partir de Nietzsche. Aussi difficile que Nietzsche puisse paraître au lecteur, il est toujours malgré tout plus aisé, plus facile, plus confortable d'aborder une telle question au travers d'un seul auteur, Nietzsche, aussi difficile soit son texte. Le problème, c'est que la mort des dieux, comme je l'ai dit, a commencé presque un siècle avant que Nietzsche s'en empare. Et si on se demande et si on s'interroge sur son émergence, on n'a plus du tout affaire à un auteur. On a affaire à une constellation de poètes, mais aussi parfois de philosophes comme Hegel, qui rendent ce thème particulièrement difficile à cerner. Bon. Alors, ici, il y a donc certainement beaucoup à redire à la présentation que je vais tenter de faire, mais je tiens simplement à dire que ce thème, quand je vais aborder les poètes, je ne veux pas dire qu'il domine entièrement tel ou tel poète. Je trouve ce thème en filigrane ou explicite chez une multiplicité de poètes, mais ça ne veut pas dire que les poètes se réduisent dans toute leur poésie à ce thème. Ce n'est pas parce que je trouve ce thème chez Mallarmé, justement, que Mallarmé ne serait qu'un poète de la mort de Dieu. Néanmoins, j'ai essayé de dégager avec mes pauvres moyens certaines constantes qui vont me permettre de montrer en quoi il peut être intéressant de poser une différence à partir de ces constantes avec ce que Mallarmé semble découvrir en 1966. Repartons donc de Musset, puisque c'est lui que j'ai évoqué. Alors, on sait que Musset, comme le montre bien Bénichou, fait partie de cette génération française des poètes de 1810, née en 1810 ou autour de 1810, qui avec Gautier, la comédie de la mort, Ténèbres, et Nerval, évidemment, le Christ aux Oliviers, développe en France ce thème de l'épuisement de la croyance, dans le sillage en particulier, pour le dernier d'entre eux, pour Nerval, de la traduction ou de la transposition du songe de Jean-Paul par Madame de Staël en 1813. Alors, le premier caractère qui me frappe de la mort de Dieu tient au fait que cette mort est vécue comme un héritage. Qu'est-ce qui différencie la mort de Dieu d'un athéisme ordinaire? D'abord, c'est vécu comme un héritage. C'est un héritage historique et c'est vécu comme tel pour une génération qui s'en désole. Cet héritage, c'est celui de l'incroyance collective, de la foi jurée partie hors de la terre depuis les Lumières et la Révolution. Au début du XIXe siècle, l'incrédulité, en fait, n'est plus un combat. L'incrédulité n'est plus une cause, comme durant les Lumières, c'est un legs. C'est-à-dire que l'incrédulité ne relève plus de la raison militante, de la raison volontaire, offensive, des philosophes des Lumières, déistes ou plus encore matérialistes. L'incrédulité n'est plus un choix, le choix d'une lutte contre une superstition jugée dominante et oppressive, à l'aide des armes, de l'empirisme et de la nouvelle science. L'incrédulité est plutôt ce qui est donné en partage à la naissance, aux enfants du nouveau siècle, ceux qui sont venus trop tard dans un monde trop vieux, selon la plainte de Rolla. Comme l'écrit Sartre en parlant de la génération du Parnasse, de Le Comte de Lille en particulier, je cite, « on les a fait athées. Ils ont subi la déchristianisation avant d'avoir l'âge de décider par eux-mêmes. Dès lors, l'athéisme n'est plus, comme durant le siècle des Lumières, la marque de l'esprit fort qu'il endosse librement, en radicalisant le déisme jusqu'au matérialisme, mais la marque de l'esprit nativement trop faible, trop épuisé pour être capable de croire encore, au moins de façon aussi innocente qu'aux âges antérieurs. L'athéisme n'est plus une décision individuelle, mais un stigmate des temps présents. L'énoncé « Dieu est mort » est donc un énoncé essentiellement épocal. C'est un diagnostic sur l'époque. C'est une nomination de l'époque. On pourrait dire une contre-nomination. Vous savez, Foucault pensait que les Lumières étaient la première époque qui s'était nommée elle-même au présent. Ce qui n'est pas vrai, car la Réforme l'avait déjà fait. Ce qui est intéressant dans la mort de Dieu, c'est que c'est une contre-nomination de l'époque durant cette époque. Cette époque est nommée par le fait qu'elle hérite de l'incapacité native, de l'épuisement de la croyance. Et en effet, cet énoncé « Dieu est mort » jusqu'à aujourd'hui, il contient toujours la dévaluation de l'énoncé théorique « Dieu n'existe pas ». Car l'énoncé « Dieu n'existe pas » est bien plutôt le résultat de l'enquête philosophique. Ce sont les philosophes qui prouvent que Dieu n'existe pas, comme ils ont prouvé auparavant que Dieu existait. Cette dévaluation de l'énoncé théorique « Dieu n'existe pas » ne se fait donc pas au profit de l'évaluation, de la réévaluation de l'énoncé « Dieu existe » de la métaphysique classique, mais au profit non plus d'une théorie, au profit d'une expérience historique, profondément historique, condamnant le mouvement théorique en général dont elle procède. C'est un résultat, une expérience vitale d'une théorie historiquement antérieure, ou d'une série de théories historiquement antérieures. Cette expérience est en même temps, en tout cas lorsqu'elle conduit à l'athéisme contraint, je l'ai dit, une expérience vitale. C'est une expérience de l'affaiblissement de la capacité de croire. Comme c'est une expérience vitale, antérieure à toute rationalité, c'est une expérience qui va au fond dévaluer l'idée que le rapport à Dieu aurait quelque chose à voir avec la rationalité classique. Peu importe qu'on démontre ou qu'on ne démontre pas par des preuves rigoureuses que Dieu existe ou pas. Ce dont je fais l'expérience, c'est quoi ? C'est que c'est l'histoire qui décide pour moi. Et si c'est l'histoire qui décide pour moi, ça veut dire que je fais une expérience qui est à la fois historique et vitale, collective et intime. Et donc, pour dire cette expérience, les poètes vont être, si j'ose dire, tout à fait à leur place, autant et même davantage que les philosophes pour la période antérieure. C'est une expérience éminemment poétique, parce que c'est une expérience qui sape à sa base, au fond, la valeur même des théories. Cette mort, par ailleurs, elle est non seulement épocale, mais elle est vécue comme une détresse. C'est une détresse qui, par elle-même, confère une forme d'aristocratie spirituelle à ceux qui, par définition rare, sont capables de la ressentir. Car l'époque, justement, des dieux morts, c'est une époque qui ne ressent pas, en général, la perte de ce dieu mort. Rares sont ceux qui éprouvent cette détresse. Et l'élu se reconnaît à la souffrance qu'il ressent d'un legs dont il ne peut en même temps se déprendre. Le contre-modèle n'est donc plus le prêtre et la superstition, mais un personnage qui va dominer tout le XIXe siècle au travers de plusieurs poétiques différentes, le philistin. Le philistin et sa satisfaction remplacent le prêtre et sa superstition. Le philistin étant au fond le représentant heureux de l'époque, le représentant heureux de son héritage, l'héritier heureux. On trouve ce philistin dès 1798 dans les grains de pollen de Novalis. En particulier, le pire des philistins, pour Novalis, c'est le philistin révolutionnaire. Bon. Donc le philistin émerge ici comme cette contre-figure du prêtre des Lumières. La mort de Dieu, c'est donc un athéisme, mais au fond, c'est un athéisme de l'époque elle-même. Ce qui veut dire que la mort de Dieu, ou qu'un poète de la mort de Dieu, n'est pas nécessairement lui-même athée. Novalis, évidemment, n'est pas athée. C'est pas parce qu'on est un poète de la mort de Dieu qu'on est athée ou qu'on est croyant. Ce qui est très important dans la mort de Dieu, c'est d'abord qu'on constate que l'époque est athée. Novalis n'est pas athée. Mais dans ce cas-là, comment se manifeste chez lui la mort de Dieu ? La mort de Dieu, ça ne se manifeste pas nécessairement, et même pas le plus souvent, par l'énoncé explicite « Dieu est mort ». La mort de Dieu, je crois, dans la poésie du XIXe siècle, en particulier dans le premier romantisme allemand, ça se manifeste par l'invention d'une certaine figure de la nuit. En fait, il y a beaucoup de nuits dans l'histoire de l'Occident, il y a les nuits de Jung. Et il faut bien voir que, en fait, dans l'histoire occidentale, pour autant que j'ai pu enquêter sur le sujet, la nuit est souvent valorisée. On confond souvent deux types d'oppositions. Les ténèbres et la lumière, où les ténèbres sont en effet très souvent dévalorisées au profit de la lumière, et le jour et la nuit. Mais la nuit n'est pas la ténèbre parce qu'elle est stellaire. Bon. Elle n'est ténèbre que quand elle est nuit noire ou profonde. Et en vérité, même chez Platon, la nuit
est tout à fait, malgré le soleil de l'allégorie de la caverne, la nuit est célébrée, car la nuit, c'est le lieu de l'astronomie. C'est la nuit qu'on voit le plus loin, et pas le jour. On voit jusqu'aux astres les plus lointains. Et on voit la perfection cosmique. C'est le jour qui nous aveugle de cette perfection cosmique en nous donnant un regard de taupe, où nous ne voyons que notre plus proche environnement. Bon. Donc la nuit, en fait, est valorisée. Catherine Chalier a montré qu'elle était aussi profondément valorisée dans la Bible, où en fait la nuit est créée, elle n'est pas la ténèbre, elle n'est pas le tohu-bohu initial, car la création des luminaires crée la nuit. Bon. Mais il y a dans le romantisme allemand, et en particulier dans la poésie de la mort de Dieu chez Novalis, une réinvention de la nuit. Je ne vais pas dire qu'il en est l'inventeur, parce qu'on trouve toujours un précurseur, un inventeur, mais en tout cas dans les hymnes à la nuit, il y a une autre nuit. Et cette autre nuit, quelle est-elle? Eh bien, c'est la nuit stellaire qui nous fait voir l'éloignement des dieux. C'est-à-dire qu'elle nous fait voir que les dieux sont partis. Ils ont été chassés par l'ère de la mesure stricte, du nombre pur, du rationalisme, en somme, étriqué, révolutionnaire. Et donc, le jour nous trompe quant au rapport que les dieux instaurent par leur lumière à notre terre. Le jour nous trompe, même si la lumière est bonne en elle-même. C'est la nuit qui nous fait voir que les dieux sont en train de s'éloigner. Bon. Et ça, c'est une nouvelle nuit. C'est une nouvelle invention de nuit. Et cette nuit de l'éloignement des dieux, en tout cas, je la retrouve jusque chez Lecomte de Lisle, dans son poème « Dies Irae », publié dans « Les poèmes antiques », donc en 1852. Donc il y a en tout cas cette image de la nuit en tant que les dieux sont partis, elle peut tout à fait arriver jusqu'à Mallarmé. Le point fondamental de la mort des dieux, c'est donc à la fois l'idée historique, vitale, l'idée d'une souffrance élitaire, l'idée d'une imagerie nocturne plutôt que solaire. C'est pas Icare qui se brûle, qui brûle ses ailes au soleil diurne, c'est au contraire la vision d'une luminosité en partance. Bon. Mais il y a encore autre chose. C'est que, en fait, je pense que la mort de Dieu, c'est quelque chose comme un schème. Vous savez, Kant appelle un schème la temporalisation d'un concept selon une règle. Bon. Ce que je retiens de cette idée, c'est un schème, c'est une façon de temporaliser selon une règle quelque chose. Bon. Et là, je crois qu'il y a une sorte de temporalisation d'un pattern, c'est-à-dire de quelque chose qu'on subit. Il y a un schème pathique ou passionnel. On subit l'époque. Bon. On n'y peut rien, l'époque est ainsi. Et en même temps, ça crée un certain type d'affect. Cet affect est un affect de détresse. Mais cette détresse est élective. Si je ressens cette détresse, je ne suis pas un philistin. Et donc je suis en droit d'attendre quelque chose de cette détresse, qui va en fait, dans les poésies et les pensées de la mort de Dieu, s'apparenter à une forme de salut. Si j'endure cette détresse, si j'endure le retrait des dieux, dira Heidegger, lisant Hölderlin, eh bien, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve, pour reprendre les vers de Patmos. Bon. Il y a toujours encore cette idée que, en endurant et même en aggravant la souffrance élective de la mort des dieux, je vais pouvoir retrouver une certaine forme de salut. Mais ce qui me frappe, dans les divers saluts qui semblent être produits chez les poètes de la mort de Dieu, c'est que ce salut, en fait, reconduit au fond quoi? Qu'est-ce qui va apporter qui est parti? Ben, le salut dans la mort de Dieu, il reconduit une certaine forme de Dieu, mais sous la forme d'un Dieu mort. C'est-à-dire qu'il porte en lui-même la puissance mortifère encore dont il a émergé, dont il procède. Je vous donne quelques exemples. Le salut nervalien, au fond, qu'est-ce que c'est pour Bénichou? Ben, c'est la sauvegarde par le souvenir des religions anciennes, ou la réminiscence précieuse de la jeunesse du poète. Mais ce processus du souvenir et de la réminiscence entérine aussi bien l'irréversibilité des passés sans retour. C'est une perspective, dit Bénichou, non exempte d'amertume et de désespoir secret, et il écrit cela à propos en particulier de Delphica. L'amour, chez Musset, au fond, c'est le salut de Rolla, et c'est ce salut qu'il explore dans, évidemment, la confession d'un enfant du siècle. Mais l'amour d'Octave, l'amour que recherche Octave, qu'est-ce que c'est? Ben cet amour est à son tour pétri de mort, parce que l'amour, c'est toujours l'amour pour une femme qui va vous trahir. Et avant même d'ailleurs que Octave soit trahi par sa maîtresse, il porte une discipline de fer bardée de pointes sur la poitrine qui le fait saigner, n'est-ce pas? Comme si cet amour, alors même qu'il n'est pas l'objet d'une trahison éventuellement accidentelle, devait nécessairement être un lieu de souffrance. Novalis, teinte son annonce prophétique des temps futurs, dans les hymnes à la nuit, d'une impatience de la main. Il y a un poème, le dernier hymne, le sixième hymne s'appelle Sehnsucht nach dem Tode, désir, impatience de la mort, qui est en quelque sorte la promesse individuelle qui est faite au poète, et qui coupe court aux attentes historiques de plus longue portée, puisqu'il y a toute une attente eschatologique chez Novalis du retour de l'âge d'or de la catholicité. Et ce qu'on découvre donc, au fond, dans la mort de Dieu, c'est qu'elle est comme prisonnière du fait évident qu'il s'agit d'un énoncé chrétien. Dieu est mort est un énoncé chrétien. Peut-on vraiment sortir du christianisme en disant « le christianisme est mort à la façon dont Dieu est mort » sans retomber, au fond, dans un espoir de la résurrection? Si Dieu est mort, alors on est toujours dans l'attente d'un salut et d'une résurrection. Mais le problème, c'est que comme, en effet, Dieu est vraiment mort, ce qui revient, c'est un Dieu mort. C'est-à-dire que c'est un Dieu dont la vie semble être de reprendre ou de répercuter la mort dont il procède. Un Dieu qui est dangereusement mort-vivant. Bon. Et on comprend donc mieux pourquoi le poète de l'Azur ne trouve pas longtemps de soulagement dans un ciel mort. Parce que si la poésie icarienne ne cesse d'exacerber l'échec du Créateur, la poésie de la mort de Dieu ne cesse au fond de répéter et de répercuter chez celui qui tente de la fuir la catastrophe, la destruction, la souffrance qu'il tente de fuir. Tout se passe comme si on était dans quelque chose de l'ordre de la compulsion de répétition, si vous voulez. Bon. Et on saurait donc mieux fusionner la récurrence destructrice du désastre icarien et de la répétition de la mort de Dieu que par la litanie finale, obsessionnelle et malaisante de l'azur. L'azur, 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 l'azur. Ce qui est très frappant ici, c'est que cette structure répétitive semble en quelque sorte résumer l'intensité destructrice de ces deux affects distincts, celui du spleen icarien, celui de la mort de Dieu, qui sont l'un et l'autre, n'est-ce pas, porteurs d'une répercussion mortifère. Et on ne va pas se sauver de l'un en essayant de le détruire par l'autre. Ça ne marche pas. Il y a là une sorte de sursaturation affective qui culmine dans l'azur et qui, je le dis simplement dans une digression, me paraît à la source du thème récurrent chez Mallarmé, ultérieur, de la décapitation. Si Mallarmé cherche toujours à penser une décapitation du poète, hein, celle de Saint-Jean-Baptiste en particulier, bon, Digitur, ça n'est pas parce qu'il cherche une poésie purement cérébrale. C'est parce que cette poésie apparemment cérébrale héritée d'Edgar Poe le sauve non pas de tout affect, mais de deux affects au moins et même plus peut-être, qui sont non pas des affects simplement transhistoriques ou physiologiques, qui sont des affects historiques, poético-historiques. Et pour sauver sa peau, si j'ose dire, pour s'extraire de cette puissance de stérilité et de mort, qu'il a ressenti peut-être bien plus que d'autres, n'est-ce pas? Comme disait Sartre, Mallarmé prend à la lettre le désespoir des poètes, c'est pour ça qu'il inquiète ses collègues. Bon. Et ben, précisément pour s'en sortir, il doit penser cet élément de séparation, en quelque sorte, de la cérébralité vis-à-vis non pas de tout affect, mais de ses affects poétiques déterminés. Quoique il la réinvente avec une puissance inédite, je crois que Nietzsche, en fait, appartient encore au terme du XIXe siècle à cette configuration de la mort de Dieu qui a été mise en place principalement par les poètes. Pas seulement, on en trouve aussi la formulation chez Hegel, mais principalement par les poètes. D'abord, l'aphorisme 125 du Gai Savoir, qui met en scène l'insensé et sa lanterne de plein jour, oppose la perdition splendide et solitaire de l'insensé lui-même face à la mort de Dieu à une foule prosaïque et moqueuse, manifestement faite de philistins et de libres penseurs. Seul l'insensé, avec sa lanterne éclairée en plein jour, a l'air, n'est-ce pas, de ressentir la détresse et le vertige inouï de la mort de Dieu. Donc la souffrance élective, on trouve le thème de la souffrance élective est rare. Pour l'essentiel, le dernier homme n'a pas accès à cette souffrance. Ensuite, cette détresse sans réponse, elle est saisie dans les fragments posthumes de l'automne 87, au travers de la catégorie à la fois historique et vitale de nihilisme. Le nihilisme, c'est précisément, pour Nietzsche, l'épuisement passif, vital de notre capacité à croire, mêlé à la destruction active des valeurs en cours, des valeurs anciennes. Donc il y a un élément historico-vital. Nous sommes à une époque d'épuisement vital de la croyance qui est antérieure à toute rationalité et qui fait qu'il y a dévaluation chez Nietzsche, là encore, de l'énoncé « Dieu n'existe pas » au profit de l'énoncé épocal et vital « Dieu est mort ». Enfin, Nietzsche saisit comme réponse ultime à cette histoire de la volonté retournée contre elle-même son franchissement par une affirmation dionysiaque de la vie. Oui, certes, il semble que le salut nietzschéen soit purement, n'est-ce pas, affirmatif et vital. Pourtant, il en passe, là encore, par la plus dure des répétitions, l'éternel retour. C'est-à-dire le fait de devoir endosser la souffrance effroyable, inouïe, de la vie elle-même, portée à son degré suprême. Car la vie, chez Nietzsche, est une souffrance inouïe. Et on retrouve encore la structure de répétition, hein, portée à son comble. Tous ces éléments font que on gagne, à mon avis, non pas à éclairer le siècle de la mort de Dieu par l'œuvre de Nietzsche, mais plutôt à éclairer Nietzsche par la constitution de ce thème au cours du siècle, et en particulier par les poètes. Eh bien, l'éternel retour, Mallarmé en fait pour moi l'expérience, une expérience analogue, dans cette répétition de l'azur. Et lui, il veut en sortir. Il veut sortir, précisément, de cette configuration de la mort de Dieu, tout autant que du spleen baudelairien. L'intérêt extrême de la lettre à Casalis d'avril 66, pour moi, c'est que elle me semble dévoiler comment Mallarmé va donc rompre avec cette constellation alors déjà ancienne de la mort de Dieu, non pas évidemment en vue d'un retour à Dieu, mais en vue d'une exploration du néant. Mallarmé va rompre avec beaucoup de choses. La mort de Dieu, l'athéisme du philistin, le spleen baudelairien. Et cette triple rupture, il y en a peut-être d'autres, n'est-ce pas, a un nom qui s'appelle le néant. Donc, en explorant la voie du néant, j'explore en particulier une voie pour m'extraire d'une configuration philosophico-poétique qui va jusqu'à Heidegger lisant Hölderlin. Qu'est-ce que nous permet de penser Mallarmé ? Au fond, quand on entre dans la mort de Dieu, on n'en sort jamais. C'est-à-dire, quand on entre dans la thématique de la mort de Dieu, on entre dans une thématique de désir qui s'oppose précisément à éventuellement l'athéisme ressenti et qui fait que nous allons au fond toujours finir par revenir vers Dieu ou son équivalent. Au fond, la mort de Dieu, c'est Dieu. La mort de Dieu, c'est Dieu, puisque le Dieu mort, c'est le Dieu chrétien. Donc la mort de Dieu, c'est Dieu, mais sur un mode qui intensifie le moment de la passion et non pas celui de la résurrection, qui apparaît presque en filigrane. C'est d'ailleurs précisément pourquoi je crois que c'est un infléchissement intérieur à l'histoire du christianisme. Car en fait, la mort de Dieu, comme le montre par exemple Frédéric Ildefonse dans son commentaire de la disparition des oracles de Plutarque, elle est initiée au XVIe siècle par la réinterprétation chrétienne de la mort du grand Pan dans le récit de Plutarque. Au premier siècle, Zeb de Césarée avait interprété cette mort du grand Pan qui arrive sous Tibère, dans le récit de Plutarque, au moment où le Christ est sur terre, comme la mort des démons. Pourquoi ? Parce qu'on a une époque où les historiens du Phénix, en particulier des premiers siècles chrétiens, montraient que le premier mythe païen que les chrétiens, que les pères chrétiens réinterprètent de façon biblique, c'est le mythe du Phénix, parce qu'on insiste fondamentalement non sur les souffrances du Christ, mais sur sa résurrection en gloire. Donc il ressuscite comme le Phénix. En contraire, le Pan n'est pas du tout identifié au Christ au premier siècle, puisque mais au démon que le Christ serait capable de tuer. Le mythe disparaît et n'est redécouvert qu'au XVIe siècle. Et entre-temps, le problème, c'est que les démons sont, selon un dogme chrétien, décrétés immortels, ouais, qui s'occuperaient des enfers si les démons mouraient. Bon. Donc les démons sont immortels. Et ça veut dire que Pan, en fait, va être identifié non plus aux démons, mais au Christ lui-même, en particulier par Rabelais dans le Quart Livre. Et va alors émerger un humanisme évangélique parallèle au privilège donné à la théologie de la croix, sur la théologie de la gloire par Luther, où ce n'est plus le pôle de la résurrection en gloire qui va être privilégié, mais le pôle passionnel de la souffrance. Et cette inversion polaire, où les deux thèmes sont toujours présents, mais on insiste sur un terme plutôt que l'autre, eh bien, est comme radicalisée par la poétique de la mort de Dieu. On ne voit presque plus que la mort en Dieu. Mais non, il y a une résurrection, il y a toujours un salut. La lumière est là, elle est stellaire, les dieux sont peut-être en exil et ils vont revenir sous une forme ou sous une autre. Bon. Ce qui fait qu'en vérité, on ne sort peut-être pas du christianisme, Nietzsche compris, quand on commence à admettre précisément l'expression mort de Dieu. Le problème, c'est que si on ne l'admet pas, on retombe dans l'athéisme des Lumières et donc du Philistin. Mallarmé peut-être peut permettre aux philosophes d'éviter cette alternative. Qu'est-ce que Mallarmé écrit dans sa lettre de 66? Il découvre un vide qui lui fait dire que nous ne sommes que vaine matière. Cette découverte à la fois le décourage de continuer à pratiquer son art, devenu vain, et tout au contraire, immédiatement, lui inspire l'idée d'une poésie consacrée à la gloire du mensonge. Alors sans pouvoir m'attarder sur cette lettre elle-même, je voudrais souligner ceci. Cette idée de gloire, elle suppose une réinterprétation du présent de la poésie, non pas en termes de deuil, pas même au sens strict en termes d'un désespoir que Mallarmé continue d'évoquer dans cette lettre, à mon avis par inertie parnassienne, mais en termes de triomphe paradoxal. Pourquoi ? Si aucun dieu ne garantit l'inspiration poétique, le poète se découvre en effet la gloire rétrospective d'avoir été non pas l'inspiré de Dieu, mais le producteur de Dieu. Les psaumes ne sont pas inspirés par Dieu, les psaumes produisent le Dieu. Ce sont les poètes qui ont engendré, y compris le Dieu. Seulement ce Dieu se révèle de ce fait même n'être rien. Si c'est les poètes qui l'ont engendré, le Dieu n'est qu'une fiction. Et ainsi le poète, au moment même où il saisit toute la puissance démiurgique de son art, il crée jusqu'à Dieu, tout de même, quel chef-d'œuvre, évapore en brume ce qui se révélait à lui, n'est-ce pas, comme la source de sa production. Tout venant de lui, rien n'en est issu. La gloire du mensonge. Le mensonge, mais la gloire. Ce balancement encore subjectif dans la lettre, entre enthousiasme et découragement, découragement, tout est vain, enthousiasme, je découvre en quelque sorte toute la puissance de mon art, va prendre une forme, je crois, plus intéressante à mesure qu'il va être pensé dans les décennies suivantes, comme la structure même du sacre poétique. Si la poésie est sacre, comme le veut l'action restreinte, ce sacre, plutôt qu'affirmer ou refuser, de façon dogmatique, également dogmatique, va présenter, je crois, dans certains poèmes de la maturité, une indécidabilité essentielle que l'écriture doit permettre au lecteur d'expérimenter à travers une oscillation du sens. Il se pourrait que ce que l'on prend pour la mort des dieux soit bien plutôt la réappropriation triomphale par la poésie de sa puissance d'écriture. Mais il se pourrait, si cette puissance d'écriture n'est rien d'autre qu'une puissance d'engendrer des fictions, que cette puissance ne soit rien et donc qu'elle soit vaine. Mais tout de même, c'est une puissance exceptionnelle, inouïe et énigmatique. On a un balancement, une oscillation. Mallarmé va ainsi régulièrement, je crois, placer le poète en face de son art, et du fait de savoir si son art vaut quelque chose. En position analogue à celle du faune, face à sa rencontre avec le duo de nymphes. On sait que le faune s'interroge, en tout cas dans la version de 76, sur sa rencontre avec le couple de naïades, rencontre possible, mais jamais décidée, et qui précisément de la sorte relance son désir, en relançant l'églogue, par le biais de ses hypothèses successives. Ce duo érotique figure au mieux, je crois, l'accouplement des deux vers dans la rime, qui est le symbole de la poésie elle-même. Au fond, le poète Mallarmé, c'est celui qui se demande si sa rime a bien eu lieu, non au sens de la correction métrique, bien sûr, mais au sens de la poéticité authentique, de son sacre donc, sans que rien n'atteste jamais à coup sûr que l'événement se soit effectivement produit. Y a-t-il gloire poétique ou n'y a-t-il qu'amusement, jeu vain et plus ou moins agréable. Ce qui est assez fascinant dans la version du faune, c'est pas seulement que cette indécidabilité de la rencontre avec les nymphes serait en quelque sorte une érosion de l'objet, parce que dans le poème, ce qui est rendu indécidable, c'est pas une chose, c'est déjà un mythe, c'est déjà une fiction. Quand même, le faune est une fiction, qui se demande s'il a rencontré deux fictions. Et même ça, ça n'est pas sûr. Donc il y a même une érosion de la fiction elle-même. C'est-à-dire que ce que le poète se demande, c'est pas simplement si l'objet a eu lieu, est-ce que j'ai vraiment rencontré mon collègue ce matin? Non. Ce qu'il se demande, c'est est-ce que la fiction elle-même a lieu? C'est-à-dire, est-ce qu'elle représente précisément le sacre que je recherche en elle? Donc c'est bien plutôt une interrogation sur le sacre même de la fiction. L'athéisme contrarié du poète de la mort de Dieu était lié au fait que son désir s'était attaché à la fiction divine, non parce qu'elle était une fiction, mais parce qu'elle était posée illusoirement comme une vérité. L'enjeu est au contraire d'engendrer une érosion de notre certitude quant au sacre de la fiction, qui permet alors toujours de solliciter et de relancer le désir. Il faut réorienter le désir du poète vers l'exercice de son art, reconnu comme art des fictions. Et cela va prendre la forme dans un certain nombre de poèmes, dont le coup de dé, suivante. Il se pourrait, on découvre ça dans un certain nombre de poèmes, que le désastre apparent qui est décrit soit au contraire un triomphe. On découvre un échec essentiel, terrible, accepté, semble-t-il, par le poète avec une douce ironie, hein, qui accepte sa finitude, etc. Au fond, une thématique proche soit de l'échec icarien, soit de l'échec de la mort des dieux. Mais il se pourrait, pour le lecteur qui, en quelque sorte, exerce son art de lire, cérébral, décapité de ses affects, que toute autre chose se passe dans le poème. Il se pourrait qu'il y ait un triomphe caché au sein même du naufrage. Ce qui veut dire qu'il y aurait dans certains poèmes de Mallarmé une douce et ironique critique de la contre-nomination de l'époque, comme mort de Dieu. Les dieux sont morts, n'est-ce pas? Et par là même, nous sommes éventuellement dans l'attente d'un salut futur. Jusqu'à Heidegger, seul un dieu peut nous sauver. Voilà, seul un dieu peut nous sauver. Bon. Oui, mais il se pourrait en fait que ce dieu il soit déjà arrivé sous la forme du sacre des fictions, n'est-ce pas? Quand un Heideggerien dit, et dans l'attente, seul un dieu peut nous sauver, un Mallarméen devrait répondre à mon sens, je crois qu'il vient de passer. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas une poésie de l'attente ou de l'imminence, c'est une poésie de la récence. En fait, il vient peut-être de se passer, dans le siècle, tout autre chose que le diagnostic que les poètes ou les philosophes ont posé sur ce siècle. Mais la singularité, précisément, de ce triomphe, c'est qu'il ne peut jamais être affecté ou plutôt attesté de façon dogmatique. Parce qu'on ne parle pas d'une chose, on parle du néant. Bon. On parle du néant et par là même d'un paradoxe pour toute raison. Si je parlais du néant en l'attestant, j'en parlerais comme un philistin, c'est-à-dire j'en ferais la science. Vous savez que, et on le sait en particulier grâce à la correspondance de Mallarmé admirablement éditée par Bertrand Marchal, on sait que Casalis avait répondu à la lettre du néant, notamment quand Mallarmé disait « nous ne sommes que vaine matière », bon bah, tes thèses sont absurdes, elles sont comme ces femmes aussi belles que bêtes, « ex nihilo nihil », dit-il, « donc de la matière ne peut sortir la pensée où le néant créerait la vie ». On ne peut pas être que pure matière pour Casalis, selon le principe « ex nihilo nihil », parce que la matière ne peut engendrer la pensée. Ce serait croire au surgissement ex nihilo, notion irrationnelle par excellence. Mais telle est bien, justement, la vertu poétique du néant. Car le principe du néant, c'est que c'est le néant, c'est la fiction qui a créé le désir le plus intense. Ce qu'on découvre, c'est que c'est une fiction qui a créé le désir le plus intense. Le désir du poète pour son art, par le biais, précisément, de ces fictions. On découvre que le néant est capable d'être la cause efficace du désir, d'être création ex nihilo du désir, alors qu'il n'est rien, tout comme le vide produit avec violence son appel d'air. De ce paradoxe, le rien possède une puissance causale, il n'y a ni science ni métaphysique. Et le renoncement du poète à Dieu ou à sa mort ne peut donc consister à retourner à l'athéisme satisfait du rationalisme. Il faut dire au travers de l'écriture poétique cette étrangeté supérieure du néant en tant qu'il est capable d'être cause efficiente de la relance de nos désirs, et donc en tant qu'il est capable enfin de réorienter notre désir hors de Dieu. Car l'enjeu fondamental de la sortie du christianisme, ce n'est pas d'affirmer ou de croire que Dieu n'existe pas, c'est de cesser de le désirer, plus exactement d'être capable de désirer autre chose. Le néant donc ne peut être attesté en son effectivité contre-intuitive à la façon d'une chose dont on est sûr qu'elle a lieu ou qu'elle n'a pas lieu. Il faut plutôt l'approcher, le cerner, au travers de son indécidabilité elle-même, par le biais d'une enquête qui n'en finit pas de s'interroger sur la valeur ou la non-valeur de la poésie elle-même, soit comme vaine production de fiction, soit comme glorieuse capacité à engendrer notre désir le plus fondamental, de ce qui n'est pas de ce monde. Le néant n'est pas de ce monde, puisque en ce monde, il n'y a que des choses qui sont. Et en même temps, il n'y a rien hors du monde. Mais il n'y a rien d'autre que le rien. Donc c'est une sorte de transcendance paradoxale qui atteste en même temps l'immanence. Néanmoins, en même temps, ce poème, s'il va engendrer un peut-être au sein même du sacre, ce ne sera pas un peut-être normand. Hein. Ce ne sera pas peut-être d'un coup et peut-être d'un que non. Peut-être que c'est arrivé, peut-être que ce n'est pas arrivé. Bon, ce ne serait pas intéressant. C'est un peut-être, je crois, dissymétrique. Parce que le poète, évidemment, désire de ses voeux quelque chose comme le sacre poétique. Mais ce peut-être sera toujours au bord de la certitude. On va produire dans un poème une alternative qui fait qu'une multiplicité d'indices sont en faveur du fait qu'il y a eu triomphe et non pas le désastre que nous pensions. Et en même temps, cette multiplicité d'indices ne peut pas avoir valeur probante, assurée, d'un tel triomphe. C'est pour ça que ce triomphe est paradoxal. Donc la question fondamentale, c'est quelque chose comme la poésie a-t-elle eu lieu, les lettres existent-elles? Et ce que je dis, ce que j'ai dit paraîtra peut-être moins vague si je prends donc un exemple du type de lecture qui en découle et que je vais brièvement appliquer au sonnet du cygne. Le Vierge de Vivas, donc de 1887. Alors commençons par la trame générale qui s'offre au lecteur dans ce sonnet de 87. Pour le lecteur qui commence à tenter de défricher le poème, que se passe-t-il? Un cygne, pris dans un lac glacé, revient à lui-même, se souvient de sa magnificence ancienne. Il secoue le givre qui le recouvre, mais ne parvenant pas à se libérer du sol horrifique, il s'immobilise finalement au songe de mépris que vêt la constellation céleste du cygne avec une majuscule. Mépris au fond du cygne du poète pour son incapacité à chanter l'idéal céleste, ce qu'il appelle la région où vivre, il n'a pas su chanter la région où vivre. Mépris pour son exil inutile, c'est-à-dire infécond, stérile, sur un sol qui lui fait horreur. Le poète serait donc abandonné sur une terre désolée dont il ne parviendrait pas à s'échapper pour rejoindre le ciel de son inspiration. C'est un thème qui conjugue profondément une multiplicité d'aspects de la mort des dieux, en particulier de la nuit et de l'exil. Bon. Or, il est possible d'affirmer que c'est tout le contraire qui est en vérité développé dans ce chef-d'œuvre d'ambiguïté, tout le contraire d'un désastre. Peut-être assiste-t-on en fait à une victoire singulière. Lisons donc le sonnet dans cette seconde perspective. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre, ce lac dur oublié que hante sous le givre, le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Alors, ce nous, va-t-il nous déchirer, plutôt que d'être expétif, je crois qu'il désigne en fait de façon collective le lecteur contemporain de Mallarmé face à un livre de poésie. Ce serait un livre qui n'a jamais été lu. On l'ouvre. Sous la blancheur de la page de garde, son givre, se situe en fait un lac dur. Un lac dur. Ce lac dur est oublié. Pourquoi est-ce qu'il est oublié? D'abord, c'est la première fois qu'on le lit. Et puis, en même temps, il est oublié, ce lac dur, parce que les poètes n'ont pas chanté le livre. Ce lac dur, il est oublié parce que les poètes n'ont pas chanté le livre. Ils ont chanté dans le livre le ciel, qui était supposé seul valoir et se situer évidemment hors du grimoire. Le lecteur prend le coupe-papier. C'est la fine lame du présent. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. La fine lame du présent. Cette fine lame, donc, d'un geste vivace, il coupe la page. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui va-t-il nous déchirer? Schlac. Donc, cette lame est vierge et métallique comme Hérodiade et, d'un geste vivace, n'est-ce pas, me permet de couper, de déchirer la page. Ce livre n'a donc bien jamais été lu. Il est bien oublié aussi à ce titre. Une fois la page déchirée, elle se tourne en se gondolant légèrement. Va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre? Donc on voit l'aile du livre qui se tourne en se gondolant légèrement, n'est-ce pas? Coup d'aile ivre, coup de livre, évidemment. Et sous le givre de la page de garde, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre un texte. Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Ce glacier, ce lac dur est transparent puisqu'il laisse voir le texte. Et en même temps, c'est un transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Mais quels vols? Les vols de la page. C'est l'aile qui a tenté de fuir et en même temps qui est par avance destinée à retomber. Donc on a bien affaire à des vols qui n'ont pas fui. Le second quatrain présente ensuite ce que nous pouvons découvrir à même les signes d'un poème pris dans une époque où se mêlent insuffisance icarienne et retrait des dieux. Un signe d'autrefois, bon, le signe que l'on lit bien sûr, se souvient que c'est lui, magnifique. Donc le texte, le signe est enfin lu, il est vivifié par le lecteur. Il se souvient que sans espoir il se délivre pour n'avoir pas chanté la région où vivre, quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Alors, là, nous pouvons comprendre tout autre chose. Le signe se souvient que c'est lui, donc il est vivifié par la lecture. Mais c'est sans espoir qu'il se délivre. Se délivre, c'est-à-dire s'arrache au livre pour aller dire le ciel. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas chanté la région où vivre. Or, la région où vivre, rien ne dit que c'est le ciel. En fait, c'est le livre, c'est le sol. Il n'a pas chanté le sol, c'est-à-dire qu'il n'a pas chanté la terre. Il n'a pas chanté le livre en tant que le livre est explication orphique de la terre. Le problème des poètes, c'est qu'ils n'ont pas chanté leur propre sol, leur propre art, et donc précisément le propre livre. Quand du stérile hiver a resplendi d'ennui. Dans ce cas-là, précisément, nous comprenons qu'il n'a pas chanté la région où vivre. Si la région où vivre était le ciel, il serait étrange de dire que le signe ne l'a pas chanté. Il n'a pas arrêté de le chanter, le signe. Les poètes n'ont fait que chanter le ciel. Ils ont peut-être mal chanté le ciel. Mais Mallarmé ne dit pas qu'il a mal chanté la région où vivre. Il dit littéralement qu'il n'a pas chanté la région où vivre. Bon. Tout son col secoura cette blanche agonie par l'espace infligé à l'oiseau qui le nie, mais non l'horreur du sale où le plumage est pris. Alors, le signe peut bien secouer sa blanche agonie, la page peut bien sortir de la page, vouloir sortir de la page. Ce qui ne parvient pas à contester, c'est l'horreur du sol. Mais l'horreur du sol, ça veut dire que le sol est horrible. Ce dont il n'arrive pas à sortir, c'est pas d'un sol horrible, c'est de son horreur du sol. Ce dont il est prisonnier, c'est de son horreur du sol. C'est-à-dire du fait même que, la poésie, c'est dans un livre, c'est pas dans un ciel. Et c'est pour ça qu'il est en train de mourir. Il n'est pas en train de mourir parce qu'il n'arrive pas à chanter le ciel. Il est en train de mourir parce qu'il n'a pas arrêté de chanter le ciel. Et que chantant le ciel, comme dans l'azur, n'est-ce pas, il a stérilisé son sol. C'est exactement ce qui se passe dans l'azur avec le désert des douleurs, n'est-ce pas? Il chante le ciel et par là même stérilise le sol, dont il a horreur. L'ici-bas, en odeur de cuisine, etc. Il meurt de ça. Il meurt de chanter le ciel. Bon. Et par là même, le dernier tercé nous permet de comprendre ce qui va se passer véritablement. Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne, il s'immobilise au songe froid de mépris, que vait parmi l'exil inutile le signe. Alors le premier vers de ce tercé est particulièrement difficile à expliquer si l'on pense que Mallarmé décrit un désastre. Gardner Davis, honnêtement, dans son poème, dans son commentaire du poème, dit qu'il ne voit pas, n'est-ce pas, comment expliquer ce vers? Pourquoi? Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne. Bon. Comment comprendre si le destin du poète, le destin glorieux du poète, aurait été d'être céleste, que le pur éclat du poète, n'est-ce pas, l'assigne au contraire à ce lieu où il est, c'est-à-dire le sol? On pourrait dire il est qu'un fantôme, il n'est pas lui-même, etc. Oui. Mais dans ce cas-là, on ne dirait pas que son pur éclat, c'est-à-dire sa perfection, l'assigne au sol où il se trouve. On ne comprend pas bien ce vers si on pense que véritablement il s'agit d'un désastre. À mon avis, c'est difficile de le comprendre. Il coule de source, en tout cas, dans la perspective inverse. En fait, le signe est resté fantomatique aussi longtemps qu'il n'a pas compris que c'était précisément au lieu où il était que son pur éclat de poète l'assignait. D'où le vers suivant, « Il s'immobilise au songe froid de mépris, que vaît parmi l'exil inutile le signe. » Il s'immobilise. J'ai souvent lu, en tout cas, sous la plume des commentateurs, que c'était un moment de mort du signe. D'abord, s'immobiliser, ce n'est pas être immobile, c'est devenir immobile. C'est donc un mouvement. En fait, le signe reploie son aile et décide de modifier, de réorienter son vol. C'est-à-dire que c'est une sorte de vol au sol. Le vol du signe va se faire au sol. Il s'immobilise, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un geste de victoire. Il a saisi que, en effet, la poésie qu'il devait déployer, c'était la poésie du lieu où il se trouvait. D'ailleurs, le fait même qu'il ne chante pas le ciel montre qu'il ne rentre pas dans la thématique, pour elle, quant à elle, véritablement de mort, de chant du cygne. C'est quand le cygne chante l'au-delà qu'il meurt. Il refuse de mourir davantage. Et il le fait au songe froid de mépris que vêt parmi l'exil inutile le cygne, la constellation du cygne. C'est-à-dire qu'il reploie son aile victorieusement en méprisant enfin son double céleste. C'est-à-dire en saisissant enfin que le cygne, qui est au fond le lieu de perfection dont il est exilé, le cygne stellaire, cette nuit précisément de la mort de Dieu, dont j'ai dit avec que depuis Novalis, la nuit de la mort de Dieu, c'était la nuit de l'exil des dieux. Eh bien, le cygne de Mallarmé reploie son aile en méprisant cet exil inutile. Car son lieu, son pur éclat, l'assigne désormais à la terre, là où il se trouve. Et alors, nous assistons à une victoire. Alors, c'est pour ça que je lis ce poème comme une extraordinaire critique, n'est-ce pas, de la mort de Dieu. Une extraordinaire critique poétique de la mort de Dieu. Et je le fais d'ailleurs en insistant sur le point suivant, qui est une expérience de lecture que j'ai. J'ai remarqué plus d'une fois, en tout cas dans le type de lecture que j'adopte, que loin d'avoir l'impression de forcer le sens en accumulant paradoxes, sophismes, etc., pour trouver une victoire là où on trouvait une défaite, j'ai eu l'impression, et c'est précisément ce qui se passe avec Fantôme, qu'à ce lieu son pur éclat assigne, j'ai eu l'impression au contraire que c'était l'interprétation commune qui devait forcer le sens pour trouver une explication. Fantôme, qu'à ce lieu son pur éclat assigne, alors qu'on pense qu'il devrait s'envoler, c'est pas facile à expliquer pour le commentateur. Au contraire, c'est très simple dans la perspective que j'adopte. Plus d'une fois, ce qui semble une approximation sur lequel le commentateur passe plus ou moins vite, avec plus ou moins d'intelligence, quand on renverse une perspective, apparaît comme parfaitement clair et précis. Dernier clin d'œil au livre, n'est-ce pas ? Ce qui ressemble à un vol au sol et immobile, c'est un livre ouvert. C'est le livre qui a été ouvert. Et il est immobile, ce livre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut dire qu'enfin on peut lire la page. Et en particulier, on peut tourner la page de la mort des dieux. Alors, c'est pas dire pour autant que je dis que le triomphe est aussi certain que le désastre. J'ai dit qu'on ne trouvait pas le néant précisément la façon dont on découvrait une chose. Donc, je ne vais pas remplacer un dogmatisme par un autre, le dogmatisme du triomphe par le dogmatisme de la victoire. C'est pour ça que je parle de triomphe paradoxal. Ce qui, en revanche, à mon avis, est produit, c'est encore une fois le fait que Mallarmé, à mon avis, suggère au lecteur qu'il n'est pas sûr de ce qui vient de se produire. Alors même que tout semble un désastre, fondamentalement, il se pourrait que nous le croyons parce que nous ne voyons pas ce que nous avons sous les yeux. Au fond, nous ne regardons pas le livre que nous lisons. Nous le lisons sans le regarder, et donc sans le poétiser. Sans poétiser ce quotidien qui est le fait de tourner une page ou d'arracher celle-ci ou de déchirer celle-ci avec le coupe-papier. Ça ne veut pas dire pour autant que l'interprétation que je donne va emporter l'adhésion. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de cette interprétation, elle ne trouve pas non plus le néant, elle trouve juste quelque chose qui est, la matérialité de la page, du livre. Le livre, il existe, il est, il fait partie de cette formulation dont nous sommes captifs, n'est que ce qui est, page, encre, coupe-papier. Et le néant se dissipe à nouveau. Nous risquons de retomber dans quelque chose de très décevant, quoi, ça n'était juste que cela. Ce n'était que cela, la poésie, un livre dont on tourne les pages, ce n'était que cela, le sonnet de Mallarmé, un sens caché, une devinette. Et donc nous sommes déçus et nous repartons hors de cette interprétation pour nous demander s'il n'y a pas quelque chose comme un échec encore plus cruel à imaginer que ce serait cela la victoire de la poésie. Et donc nous entrons dans une oscillation, néanmoins, qui, je pense, est faunesque, parce que le poème nous invite précisément à nous demander si le sacre éternel de la poésie ne consiste pas justement dans cette hésitation qu'on retrouve comme étant l'action fondamentale du maître du coup de dé. Alors, bon, j'ai tenté de lire une multiplicité de poèmes dans cette perspective, mais je voudrais juste vous donner un dernier exemple qui est tiré évidemment mon poème de prédilection du coup de dé. Alors, le coup de dé, c'est un naufrage. S'il y a bien quelque chose que le lecteur qui ne comprend pas grand-chose au poème semble néanmoins convaincu, même quand on ne comprend pas bien ce qui se passe dans le poème, nos premières lectures, c'est même le cas au bout de 15 ans comme pour moi, ou de 20 ans comme pour moi, on a l'impression que ça se passe plutôt mal. Bon, c'est pas... Il y a quand même quelque chose comme un naufrage. Bon, il y a quelques trouées de lumière dont on n'arrive pas à bien saisir la valeur, la sirène, la constellation. Enfin, c'est pas très positif tout ça. Bon. Alors, est-ce que nous assistons à un pur désastre ou est-ce que nous ne cessons au contraire d'assister, est-ce que nous ne cessons pas d'assister sans le comprendre, parce que nous n'avons pas en quelque sorte la capacité de regarder ce qu'il y a sous nos yeux, à quelque chose comme une victoire ou un triomphe? Alors, je vais commenter brièvement la page 3 et un petit morceau de la page 4 et puis ensuite un peu la sirène. Alors, en plus qu'un peu si j'ai le temps. Un coup de dé jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles du fond d'un naufrage. On arrive donc à la page 3. Alors, la page 3, elle pose quand même beaucoup de problèmes aux commentateurs, à mon avis. Un Gardner Davis, par exemple, même si on passe toujours au-dessus de nos difficultés, moi compris, n'est-ce pas? On est toujours, un commentateur a toujours une solution apparente à ces difficultés. Elle pose quand même bien des difficultés quand on pense qu'il s'agit d'une tempête. Soit que l'abîme blanchit, étale, furieux. Si l'abîme, par exemple, c'est la mer tempestueuse, elle est blanchie par l'écume, mais dans ce cas-là, comment elle peut être à la fois étale et furieuse? Bon, il va falloir être intelligent et virtuose pour expliquer que tout ça est évidemment parfaitement cohérent. Tout au long, en fait, de cette page, nous rencontrons des difficultés tout à fait redoutables quand nous pensons que les circonstances éternelles dont parle Mallarmé, c'est une mer tempestueuse et un naufrage. Supposons que, donc la réflexion, Mallarmé, une poésie réflexive, c'est le lieu commun par excellence, mais supposons que cette réflexion, dont le rôle est déceptif, ce n'est que cela, supposons que cette réflexion soit poussée un peu davantage, comme dans le sonnet du cygne, et demandons-nous ce qui se passe. Soit que l'abîme blanchit, étale, furieux. Bon. L'abîme, supposons que c'est le pli central. Il est blanchi. Bah oui, parce qu'il y a peu de mots sur la page, beaucoup moins que dans en particulier un texte de prose et même de poésie ordinaire. L'abîme est étale. Bah oui, le livre est ouvert, donc l'abîme est étalée. Il est furieux. Bah oui, le texte semble exploser sur la page. Il est sous une inclinaison plane, désespérément. Il est sous une inclinaison plane, pardon. Il est sous l'inclinaison, ça c'est une inclinaison en effet, elle est plane. Et cette inclinaison plane, il est beaucoup plus facile de l'expliquer si c'est la page que si par exemple c'est une brume ou un ciel bas, parce que moi je n'ai jamais compris comment la brume pouvait être plane. Bon. Désespérément d'elle la sienne, par avance retombée d'un mal adressé le vol. Donc il est sous une inclinaison plane qui est d'elle, bah, c'est l'aile de l'abîme. L'abîme c'est la pliure centrale, son aile comme dans le sonnet du cygne, c'est la page. Elle est par avance retombée d'un mal adressé le vol, c'est-à-dire que jamais elle parviendra à s'envoler. Ce sont donc les vols qui n'ont pas fui. Cette page couvre les jaillissements, c'est-à-dire elle couvre les jaillissements, donc le texte de la page antérieure, et elle coupe au ras les bons. Alors, ce n'est pas la page pour les bons, c'est la rotation. De nouveau, le coupe-papier coupe au ras, non pas un vol, mais un vol qui ne peut pas s'enfuir, donc c'est un bon, littéralement. Eh bien, cet abîme, très à l'intérieur, résume l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative. Donc c'est l'ombre intérieure à l'abîme. Claude Roulet en a parlé, en particulier Thierry Roger l'a évoqué dans son analyse du livre de 1943. Il y a une ombre à l'intérieur de l'abîme, il y a une ombre à l'intérieur de la pliure. Bon. Ici, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que donc Mallarmé souligne qu'on n'a pas affaire à un texte, on a affaire à un codex. Hein. Si j'avais un texte ou même un journal de 4 pages, j'aurais pas le pli intérieur, on sait que Mallarmé y a insisté. Et cette ombre centrale, elle résume, en fait, l'ombre en général qui pèse sur la poésie, c'est-à-dire le néant. Le néant qui est au centre, désormais, de l'écriture. Très à l'intérieur résume l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative, jusqu'adapter à l'envergure, donc à l'envergure de tout le livre, sa béante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment penché de l'un ou l'autre bord. Nous venons d'ouvrir le livre. C'est un livret. Mallarmé ne veut pas qu'on publie le coup de dé dans un recueil. Bon, pourquoi ? Parce que dans un livret, le texte oscille, en fait. Il oscille, en fait, parce que c'est l'ouvrage qui est un navire qui subit le roulis. En fait. Il subit le roulis, et donc la tempête est celle, en fait, du livret. Alors que le livre lui-même, eh bien, il ne scie pas. Bon. Donc ça veut dire que cette oscillation, qui est l'oscillation même du sens poétique, est figurée au cœur de l'ombre par le fait qu'on a affaire à un livret. Ça explique, à mon avis, que Mallarmé voulait, c'est une explication pour laquelle il voulait le publier à part. Pencher de l'un ou l'autre bord, ça signifie aussi le fait que, à mesure qu'on lit, en fait, le déséquilibre va être renversé. C'est-à-dire, d'abord, toutes les pages sont de ce côté, et à la fin, elles seront de ce côté. Donc, l'équilibre sera renversé. Donc, ça signifie aussi la dynamique de la lecture. Ensuite, je lis à la page suivante. Le maître hésite à jouer la partie au nom des flots. Un flot envahit le chef, coulant barbe soumise. Donc on sait que le flot, en fait, c'est le flot d'écume que représente la page quand on la coupe. On a l'impression d'un flot d'écume. Coulant barbe soumise, on sait que les barbes, c'est les irrégularités du papier. Donc c'est les irrégularités qui sont produites par le papier quand on le coupe. C'est pour ça que cette barbe est soumise, parce qu'elle est soumise au geste de la coupe, du coupe-papier. Et cela, c'est un naufrage, cela, direct de l'homme. Pourquoi un naufrage direct ? J'ai passé 15 ans à me demander pourquoi un naufrage devait être direct. Bon, c'est direct parce qu'il est droit, tout simplement. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, en fait ? Le pli en haut de la page, c'est une nef. Mais c'est une nef n'importe où vaine, l'homme sans nef. En effet, si le pli central est une nef, c'est la nef du navire, alors le pli qui est en haut de la page est aussi une nef. Mais quand on coupe cette page, on produit un naufrage, on éventre la nef. N'importe qu'on les vente. Parce que là où elle se situe en haut de la page, elle est vaine puisqu'elle empêche la lecture. Bon. Alors, en disant tout ça, je ne prétends pas être le premier à le dire, j'en sais rien en vérité. Bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en disant tout cela, à quoi est-ce qu'on arrive ? On arrive au fait qu'il n'est pas du tout certain que le naufrage de l'homme sans nef soit un désastre. Car si le naufrage désigne le fait qu'on coupe la page, c'est au contraire ce qui permet à la lecture d'avoir lieu. Et encore une fois, de tourner la page. Si l'ombre est en même temps figurée par l'ombre centrale, il n'est pas du tout certain que l'ombre et le néant soient un désastre et un naufrage, puisque c'est au contraire le pli central qui permet au livre lui-même de tourner. Et je voudrais juste conclure cette trop longue intervention par le fait que ce phénomène me semble culminer dans la fameuse page 8 de la sirène. Vous savez comment se construit cette page ? On a en particulier un si qui est très important pour moi dans l'interprétation que je donne dans Le Nombre et la Sirène, mais je ne vais pas rappeler ça ici. Et puis le texte, donc, sous le si, qui en particulier, c'est peut-être le seul moment qui paraît positif avec la constellation finale du poème. Ce texte évoque une stature mignonne ténébreuse, debout en sa torsion de sirène, le temps de souffleter par d'impatientes squames ultimes bifurquées, un roc, Foma noir tout de suite évaporé en brume qui imposa une borne à l'infini. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours paru étrange dans ce texte. On a l'impression que la sirène, en fait, évapore en brume un roc. Or, ce roc est généralement identifié à l'écueil de la page précédente. On évoque un prince amer de l'écueil, qui d'ailleurs est étonnamment maltraité, n'est-ce pas ? Il se coiffe d'une blancheur rigide, comme l'héroïque irrésistible, mais contenu par sa petite raison virile en foudre. Bon. Ce prince est amer de l'écueil, et la sirène abolit cet écueil sous la forme du roc. J'ai jamais bien compris pourquoi la sirène se mettait en peine d'abolir le roc, vu que le naufrage, de toute façon, semble bien avoir eu lieu. Bon. Ça me semblait un peu puéril, un peu comme l'enfant qui tape sur la pierre sur laquelle il vient de se cogner. À quoi bon détruire le roc, si le roc, de toute façon, a fait son office, qui est de naufrager précisément, le navire du maître et la littérature. Alors, il se pourrait, en fait, que le roc ne soit pas l'écueil. Je crois que le roc, c'est le prince. Et que ce que la sirène abolit, c'est le prince. Pourquoi ? Il y a une technique que vous connaissez mieux que moi sur Mallarmé, pour égarer le lecteur, il en parlait à propos de René Guil, il disait « René Guil cherche toujours à égarer le lecteur avec des mots précieux. » Et moi, j'utilise des mots très simples, qui font que le bourgeois ne comprend plus les mots qu'il utilise ordinairement. Parce que un de ces procédés, ce n'est pas seulement la syntaxe, c'est aussi d'utiliser un sens rare pour un mot commun. Roc, évidemment, c'est très commun. Un sens rare, mais néanmoins, évidemment, que nous connaissons tous, c'est que c'est la tour aux échecs. C'est l'ancien nom pour la tour aux échecs. Quand on dit roc faux manoir, on dit généralement c'est un roc qui ressemble plus ou moins vaguement à un manoir dans la tempête. C'est bien vague, mais c'est du Mallarmé. Bon. Roc, si on pense que là c'est une tour aux échecs, c'est une figurine du tour, donc c'est une fausse tour, donc c'est un faux manoir. Dans la première version Cosmopolis, d'ailleurs, une des principales modifications des deux versions, Mallarmé ne dit pas roc faux manoir, il dit faux roc, comme une indication plus précise que ce n'est pas un roc au sens ordinaire. C'est en fait un roc au sens de tour aux échecs. Suivons cette piste. Supposons que le roc, en fait, soit une figurine et que Mallarmé soit très précis quand il dit que c'est un faux manoir. Bon. Pourquoi est-ce que je dis que ça peut être, en fait, un faux manoir au sens de tour? D'abord, ça nous fait penser précisément au fait que le prince est dit amer de l'échec. Le prince, par son amertume, en fait, refuse le naufrage. Et même, il y fait obstacle. Tout le siècle est traversé jusqu'au Parnasse par l'amertume de la mort de Dieu. Tous ces princes sont amers, héroïques, esselés par leur souffrance, élus par leur souffrance. On en a assez. Bon. Il est là, il refuse tout ça, et il est amer de l'écueil. Et en fait, il devient, en fait, au sens strict, non pas amer de l'écueil, mais un amer de l'écueil. On sait qu'un amer, en fait, c'est une borne qui permet de se repérer en mer et de, précisément d'empêcher le naufrage. Et un amer, si le prince est un amer de l'écueil, c'est pas, eh bien, il a une sorte de forme en tour, en forme de tour, n'est-ce pas, en forme de modèle, de repère, de marque qui permet d'éviter l'écueil. De fait, il a une toque, voilà, il a une toque, il a une aigrette, et puis il est en foudre. Alors, si c'est la foudre, on comprend pas très bien pourquoi il est en foudre. Si c'est le foudre, on comprend mieux, parce que le foudre, c'est un tonneau. Donc il est dans son tonneau, ballotté, avec sa toque, il est là, il veut pas que le naufrage ait lieu, il peut pas avoir lieu le naufrage, à cause de lui. Si la sirène abolit le prince, sous la forme de ce prince qui est dans sa tour, son tonneau, etc., si elle abolit le prince, ça veut dire qu'elle abolit ce qui empêche le naufrage d'avoir lieu, la mer. Elle abolit la mer en sorte que le naufrage ait lieu, parce que ce naufrage est bénéfique, parce que nous allons enfin nous arracher précisément à ce thème de la mort de Dieu. Notons que ce roc faux manoir, tout de suite évaporé en brume, il imposa une borne à l'infini. Or, l'étymologie d'amer, n'est-ce pas, ça vient de merk, néerlandais merk, c'est précisément borne. Bon. Mais, nous trouvons autre chose. Supposons que ce soit bien une tour, le roc. Bah, on va la figurer très facilement comme ça. Par un I. Bon. Un I majuscule. Et on comprend pourquoi la tour imposa une borne à l'infini, parce que l'infini commence et finit par un I. Bon. Mais si c'est un I, reprenons la sirène. Une stature mignonne ténébreuse en sa torsion de sirène. Le temps de souffleter par d'impatientes squames bifurquées. Un roc. Autrement dit, la sirène, n'est-ce pas? C'est pas une sirène. Et c'est d'ailleurs ce que dit Mallarmé. Il ne dit pas une sirène, il dit une stature en torsion de sirène. Il n'y a pas de sirène dans le poème. Nous croyons qu'il y a une sirène, parce que quand on nous parle, quand les poètes nous parlent, nous voyons hors du livre. Nous allons hors du livre. Mais Mallarmé ne dit pas que c'est une sirène. Il n'y a pas de sirène dans le coup de dé. J'ai passé 15 ans à lire le coup de dé et j'ai fait un contresens dès le titre, le nombre et la sirène. Bon. Je crois qu'il n'y a pas de sirène dans le coup de dé. Il y a précisément cette stature mignonne, debout, en effet, ténébreuse, noir sur blanc, le temps de souffleter par l'impatiente soie bifurquée, un roc. On assiste en fait à un cratilisme ici du mot. C'est-à-dire que ce que Mallarmé nous invite à faire, c'est de regarder de nouveau ce que nous avons sous les yeux. Nous cherchons partout la sirène dans la mythologie grecque, dans la tempête, dans la littérature maritime, etc. Elle est là, elle est juste là. Nous ne sommes pas capables précisément de comprendre que le poète est en train de chanter la région où vivre, c'est-à-dire le livre lui-même. Bon. Autrement dit, ce que Mallarmé essaye de faire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de très bénéfique qui est en train de se produire dans le coup de dé. C'est qu'au lieu de chanter un désastre qui a lieu hors du livre, Mallarmé est en train de célébrer, en fait, ce que le lecteur est en train de faire, mais qu'il ne comprend toujours pas être en train de faire. Il nous invite à regarder le livre. Il nous invite peut-être même à apprécier cette scène, parce que moi, personnellement, à force de la contempler, je la trouve très belle. Mais là, elle est ratée parce qu'ils sont trop éloignés. Mais c'est une très belle icône, en fait, de ce qui se passe. Ce spasme de la forme qui surgit des eaux pour abolir au loin cette stupide tour princière. Bon. Donc, il nous invite à regarder le pli central. Il nous invite à regarder précisément les mots eux-mêmes, peut-être parfois comme des peintures. Il nous invite à nous demander si nous n'avons pas toujours sous les yeux ce que nous cherchons ailleurs. Et il nous invite aussi à comprendre que sa prose, en fait, est plus précise qu'il le semble, que tout n'est pas étrange transformation, Rock se transformant en faux manoir, on ne sait pourquoi, mais une poésie extrêmement précise dans l'usage de ces mots, etc. Bon. Alors, est-ce que néanmoins tout ça est un sens qui s'impose au sens précédent? Non, pas du tout. Parce que, encore une fois, à la fin, on a l'impression que, comme Mallarmé dit « nommer une chose, c'est supprimer les trois quarts du plaisir, deviner, voilà le rêve, ou voilà le suggérer, voilà le rêve, hein, deviner, suggérer, voilà le rêve », bon. Bah, si c'est ça, à la fin, ce qu'on va deviner, on a l'impression que c'est une devinette, bon, pas une divination. Et donc, on est de nouveau repoussé. Ça ne peut pas être que ça, bon, comme dans l'expérience du cygne. On est repoussé vers le désir du naufrage, vers le désir de la sombre divination des nominations approximatives. Et donc, de nouveau, nous sommes pris dans une oscillation même du livre que nous sommes en train de lire. Pour conclure, je dirais ceci. Je trouve chez Mallarmé quelque chose de totalement original, chez un poète, quant au traitement de la mort de Dieu. Une façon de ne pas y entrer plutôt que de tenter d'en sortir. Et ce que je trouve tout à fait extraordinaire dans cette façon de faire, c'est que, je pense que Mallarmé essaye de résoudre un problème lancinant que rencontre le XIXe siècle, que Badiou a abordé dans son livre sur Wagner. Parsifal, pour lui, c'est un livre sur la cérémonie elle-même, la cérémonie de la cérémonie, cette recherche que les modernes, désespérément, ont de la cérémonie. Le coup de dé, pour moi, c'est le premier livre qui est fait pour être lu mentalement. La lecture mentale, c'est un apprentissage séculaire au cours du Moyen-Âge. Les anciens savaient très rarement lire mentalement, ils lisaient généralement à haute voix. Et cette mentalisation de la lecture, néanmoins, elle est comme exigée par le coup de dé, qui est en fait une expérience visuelle. Si je vous lis à haute voix le coup de dé, vous perdez la moitié, peut-être plus, du plaisir, parce que cette expérience, en fait, c'est une expérience privative, une expérience de moi face au livre. Il me semble que la dernière cérémonie, en fait, des modernes, la dernière nef des modernes, la seule cérémonie qui ne soit pas soumise à l'ironie, hein, si on produisait une cérémonie wagnérienne, on ne peut pas s'empêcher d'ironiser, mais la seule que je connaisse, et qui est justement là, et ça c'est un geste très Mallarmé, hein, non pas essayer d'inventer quelque chose de nouveau, mais de voir dans l'usage quotidien toute la beauté poétique qui s'y trouve, la dernière cérémonie que je connaisse, c'est la lecture silencieuse que nous avons face à un livre. Nous nous isolons, n'est-ce pas, avec un livre, et un lecteur c'est toujours quelqu'un qui produit une sorte d'aura de silence autour de son livre, et le coup de dé c'est comme le livre qui en quelque sorte appelle à une telle poche de silence. Et en même temps, cet éloge du livre, cette cérémonie du livre, de l'homme qui n'a pas besoin d'une autre nef que du pli central de sa lecture, c'est une chose qui m'a fait songer que c'est comme une sorte de roman de formation. Hein, le roman de formation, ça passe par des déceptions, ça passe au fond par des néants rencontrés. Il y aura à chaque génération, fort heureusement, toujours des jeunes gens qui chercheront dans les livres le sens de la vie. Mais ces jeunes gens sont impatients et ils passent toujours, en cherchant le sens de la vie, ils passent toujours de la page gauche directement à la page droite. Et ils ne voient jamais que, en fait, le sens de la vie, peut-être, pour Mallarmé, il est entre les deux. Ils ne voient pas le pli et l'abîme qui, depuis toujours, répond à leur question. Quel est le sens de la vie? L'abîme lui-même, que vous ne cessez de franchir vainqueur comme le poète franchit l'Achéron, plusieurs fois, plus de deux fois même, mais qui peut-être devrait appeler votre regard et voir peut-être votre désir. Voilà, j'en ai fini. Merci.